Mais il est dit, la réalité, c'est Christ. Maintenant, nous avons la réalité. Avant, c'était bien cela. Mais maintenant, nous avons la réalité. Et la réalité, elle est en Christ. Lui est la réalité. C'était l'ombre des choses à venir. Mais le corps est en Christ. Qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité, parce que vous savez, il y a des gens qui vous paraissent très humbles, et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Parce qu'on vous dit, oui, mais c'est très bien Jésus, c'est très bien votre Jésus. Mais vous savez, il faut aussi autre chose. Et on met quelque chose, ou quelqu'un d'autre, à côté de Jésus. On ne mettra pas n'importe qui, on vous mettra des anges, Michel et d'autres. Puis on dit, oh ben, c'est bien, puis ça a une apparence d'humilité, puis toute espèce de saint que vous allez vous mettre peut-être à prier. Puis qu'est-ce qui vous est dit ici? Puis on vous dira, oui, mais vous savez, moi j'ai des visions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui prétendent avoir des visions. J'ai des visions, puis j'ai eu un songe. Mais l'Écriture le dit, relisez le chapitre 23 de Jérémie. Il y a des gens qui vous diront, j'ai eu un songe. Que celui qui a eu son songe vous raconte son songe. Hein. Mais nous voulons la parole. J'ai pas besoin d'un songe pour savoir ce qu'est la parole. Le songe, c'est comme de la paille à côté du froment. Le froment, c'est la parole. On n'a pas besoin de songe. On n'a pas besoin de prophétie. Il faut toujours qu'on dise que nous avons une vision. Mais j'ai pas besoin d'une vision, j'ai la parole. Si Dieu veut me donner une vision, il peut me la donner. Mais cette vision, elle sera toujours conforme à la parole. Mais vous comprenez, quand vous dites que vous avez une vision, ça vous met en avant. Tandis que si vous dites, la parole de Dieu dit, ou c'est la parole de Dieu, ces bibliolâtres, ils sont toujours avec leur Bible. Mais si je dis, j'ai eu une vision. Vous connaissez ça? Mais qu'est-ce qui se gonfle en disant, j'ai eu une vision? C'est moi, c'est le moi. Vous voyez, moi je suis prédestiné, j'ai eu des visions. Alors je vous parle de mes visions. J'ai pas besoin d'une vision, j'ai la parole qui me donne la vision des choses qui vont venir sur ce monde. Mais vous comprenez, si je dis j'ai eu une vision, alors tous les yeux sont sur moi. Alors qu'est-ce que vous avez vu? Ben, j'ai vu ceci, j'ai vu cela. Mais quand je lis la parole, je vois aussi ceci et je vois aussi cela. Mais j'ai pas besoin de me mettre en avant. Comprenez-vous? Que l'homme disparaisse. Jean-Baptiste ne disait pas « j'ai eu une vision », il disait « il faut que lui croisse et que moi, je diminue ». Ayons ce saint bon sens, n'est-ce pas? Non pas « j'ai eu une vision », mais « que dit la parole ?» Que dit la parole? Et vous, c'est cela, se laisser corriger par la parole. J'ai ces tendances, moi j'aime bien les visions, bien sûr. Vous racontez mes sons, vous racontez mes visions, oui. Mais qu'est-ce qu'il est dit? Celui qui s'abandonne à ses visions, il est... C'est moi qui le dis? Il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Hein? C'est toute cette question de nos pensées. Il faut que le Seigneur contrôle nos pensées. Mais nos pensées qui viennent de notre propre cœur, elles sont charnelles. Et nous devons veiller à cela. Nos pensées sont charnelles. Alors, le Seigneur veut nous ramener à lui. Il faut, verset 19, que nous soyons attachés à qui? Au chef. Il faut que nous soyons attachés au chef, c'est-à-dire à Christ. Lui nous suffit. Et alors là, vous n'aurez pas de déception. Ne croyez pas que j'ai voulu dire qu'il ne pouvait pas y avoir de vision. Le Seigneur peut se révéler aussi par une vision. Mais une vision, elle sera toujours conforme à l'Écriture. Et vos visions, vous devrez toujours les contrôler par l'écriture. Aussi, faites attention à vos rêves. Parce que vous ne pouvez pas dire que tous vos rêves viennent du Seigneur. Des fois, ils viennent simplement parce que vous avez trop mangé, puis vous avez des cauchemars. Alors, que le Seigneur nous garde toutes ces choses et que nous revenions au chef, à Christ, dont tout le corps assisté est solidement assemblé. N'est-ce pas? Nous ne sommes plus des individus isolés qui peuvent vous dire, moi j'ai reçu cette vision. Si j'ai une vision, elle doit être communiquée dans la communauté. Et il doit y avoir des contrôles. C'est plus des individus isolés. Mais c'est la communauté qui juge. Et dans la prophétie, c'est la même chose. Il faut que dans la prophétie, on puisse avoir un contrôle. Si je vous dis, moi, j'ai reçu cette prophétie pour telle personne, mais c'est dans la communauté qu'on peut recevoir ça. C'est pas en dehors. Car vous voyez, il est dit, sans s'attacher au chef. Mais le chef, est-ce qu'il est tout seul? Il a un corps, et c'est cela qui est merveilleux. Hein. Le Christ total, c'est pas seulement la tête dans le ciel, c'est son corps. Le Christ est le chef, mais il a aussi son corps. Donc tout le corps assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens tire l'accroissement que je lui donne, que Dieu lui donne. Comment est-ce que l'Église grandit? Par l'accroissement que Dieu lui donne. Vous voyez que tout est mis sur le compte de Dieu. C'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui façonne. Dieu est en premier, il faut en tout qu'il ait la première place. C'est pas l'homme. C'est pas nous qui faisons croître l'Église. Nous avons à être dans le corps des membres qui se laissent diriger par qui? Par la tête. C'est pas mon bras droit qui va ordonner à ma main gauche ce qu'elle doit faire. C'est ma tête. Et alors, si le Christ domine les membres du corps, il y a unité dans le corps. On commence pas à se donner des coups de poing, hein, à se bagarrer entre membres du corps. Tous les membres du corps sont utilisés pour ce que Dieu veut. Eh bien, que le Seigneur nous donne vraiment de comprendre ces choses et qu'il nous bénisse de sa bénédiction et que nous puissions vraiment connaître cet accroissement qui vient de Dieu et non pas de nos efforts. C'est ce qu'il est dit, les églises croissaient et Dieu ajoutait chaque jour aux églises ceux qui devaient être sauver, celui qui ajoute. Il peut l'avoir aussi, la vision peut-être dans sa chambre, c'est pas clair, mais pas quand on veut la rapporter, il faut que ce soit sous le contrôle.
Mais le prophète a décidé, quand on parle des dons de la prophétie, que c'est dans ce sens-là, ça veut dire qu'elle
est... Alors là, il faudrait qu'on examine justement les dons spirituels, les manifestations du Saint-Esprit, mais encore... Faut-il que ce soit une prophétie? Qu'est-ce que c'est qu'un prophète? C'est quelqu'un qui... On éprouve que c'est pas lui qui parle, mais que c'est Dieu. N'est-ce pas? Que c'est un message, et c'est toujours très court, un message qui vient réellement de Dieu. Qui vient du cœur de Dieu dans le cœur, et qui pénètre le cœur des âmes qui sont là. C'est une parole qui doit... Il y a trois tests qui doivent être bien compris. Une vraie prophétie, elle doit édifier, c'est-à-dire elle doit apporter une force solide, elle édifie Elle construit, donc c'est pas quelque chose qui démolit une prophétie. C'est une parole qui édifie, qui exhorte, elle stimule, elle réveille, et puis elle console. Elle console. Alors, il y a ces trois choses. Une prophétie est vraie quand la parole qui est donnée, eh bien, elle édifie, elle exhorte, et elle console. Mais quand c'est vraiment du Seigneur, c'est pas du tout comme on entend bien souvent. Les gens prennent une autre voie que la leur. Pour quelle raison? Bien sûr, moi je m'en vais pas nier les dons de l'esprit. Mais je dis que malheureusement, eh bien, il y a les contrefaces. Et quand quelqu'un prophétise, si c'est une femme, il faudrait qu'elle ait la tête couverte. On ne sait pas ce qui se passe.
Je pensais que la prophétie, c'était quelque chose qui était au début des Bibles, aux gens. Je vu qu'on prenait beaucoup plus la Bible et tout ça, qu'après tout, c'est pas fini. Ça va être jusqu'à.
Mais c'est pas fini, c'est tout le temps de l'Église. Le Saint-Esprit et ses dons sont pour tout le temps de l'Église. Mais attention aux contrefaçons. Je le pense, oui, parce que l'Écriture le dit. Non. Je ne vais pas entrer dans les grandes discussions, mais littéralement, non. Les musulmans sont plus proches de la vérité que nous. Parce que c'est pas quelqu'un qui sera vu. C'est pas du légalisme, mais c'est par conviction. Il faut que ce soit une conviction, mais si quelqu'un veut vraiment être dans la ligne du Seigneur, il faut qu'il se soumette à la parole. Mais j'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit l'autre jour que son pasteur lui avait dit « Vous ne devez plus mettre de voile. » Parce qu'elle, elle pensait qu'elle devait avoir un voile. On lui a dit « Vous jugez les autres avec votre voile. » Vous savez, on entend ces trucs maintenant. On m'a dit ça l'autre jour. Le prédicateur voulait acheter des pantalons pour une sœur, parce qu'elle ne portait pas de pantalons. Et alors, comme les autres sœurs avaient des pantalons, il fallait aussi que cette femme-là ait des pantalons. Elle ne voulait pas mettre des pantalons. De quoi est-ce qu'on se mêle? C'est ça la vie chrétienne? Je vais acheter des pantalons pour des sœurs. Je suis prédicateur, je les vends. Je ne sais pas si j'ai... Oui? Je n'ai pas trouvé ça dans l'Écriture. Le Seigneur est au-dessus de tout. Il passe par l'homme pour transmettre des messages à une ânesse. L'ânesse de Balaam. Il a parlé directement à une bête. Il n'y a pas eu d'intermédiaire. C'est l'ânesse qui a parlé. Alors vous ne voulez pas me dire qu'il doit passer par un homme pour parler à une femme. C'est ça ces exagérations. Mais tout doit se faire dans l'ordre. Et alors quand vous respectez la parole, vous êtes dans l'ordre. Et tout peut s'accomplir. Mais attention alors, parce que en fait, prophétie, vous pouvez entendre des choses effroyables.
C'est ça, quand vous dites qu'on se considère comme mort devant Dieu, on me met des exemples là-dessus, mais ce que je veux savoir, moi...
Ben, tu le sauras ce soir.
C'est ça, parce que je veux savoir, moi, en fin de compte, parce qu'on sait qu'il faut mourir continuellement, mais si Dieu dans sa tête a toujours ce même désir-là, il faut toujours qu'il dise dans sa tête, en fin de compte, à couvrir ce que...
Non, c'est pas dans sa tête. Non, mais la mort avec Christ, on l'a dans les versets suivants. Alors, on va pas tout mélanger. Hein. Attends et puis médite, repasse ça dans ton cœur, et ce soir, on verra ça. Hein. Tu peux attendre de mourir? Oui.
travaille à la fin des petits développements. On enseigne surtout à certaines générations que certaines manifestations du parlant, puis qu'elle est interprétée, c'est semblable à une prophétie. Est-ce que c'est vrai?
Non. Je ne parle pas de parler en langue, c'est le parler en langue. La prophétie, c'est la prophétie.
Mais lorsque tu compares justement dans 1 Corinthiens 14, verset 4, tu dis, je vais te prendre mon verset. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète pour que l'Église en reçoive de l'éducation.
Ah oui, ben, ça, si un parlait en langue, sans interprétation, hein, et ça c'est pas la prophétie, c'est le parler en langue, alors s'il n'y a pas d'interprétation, qu'il se taise.
Okay. Quand il parle d'éducation, ça veut dire que celui qui va manifester le don spirituel, qui va avoir l'interprétation de ce parler en langue-là, ça veut dire que ça va seulement être des louanges à Dieu, ou bien ça peut être un message à nos frères.
C'est-à-dire le parler en langue, c'est une langue. Par exemple, la louange de Marie, le Magnificat, eh bien, c'est un cantique, mais qui m'édifie. C'est un cantique qui m'édifie, mais c'est un cantique.
Non, il n'y a pas besoin que ce soit, quand on parle d'éducation, ce n'est pas nécessaire que ce soit une exhortation.
Non. Non. Dans le parler en langue, non. Oui, mais si c'est pour l'édification de la personne, bien qu'elle parle en langue, mais en dehors de l'Église, dans sa chambre, comme le dit l'apôtre Paul, parce que sans ça, nous sommes des barbares pour ceux qui sont là. Et puis nous montrons. Moi, alors, oh, moi je parle en langue, j'ai reçu le don des langues. Les gens qui ont vraiment des dons, hein, ils se montrent pas. C'est l'humilité. Et puis ils ne disent pas, si vous n'avez pas ce don-là, vous n'avez pas le Saint-Esprit. C'est ça qui est faux. Tu comprends? Vous avez tout pleinement en Christ, mais il y a des déviations. Puis alors, il y a d'un côté ceux alors qui veulent nier que ça existe, et puis qui mettent tout par terre, ou qui disent d'une façon arbitraire que c'était que pour le temps de l'Église primitive, mais l'Église se continue. Moi je crois que c'est pour tous les temps, mais ce qu'il faut faire, il faut faire très attention de ne pas fabriquer ces choses-là. Parce qu'on vous enseigne maintenant une technique pour commencer de parler en langue. C'est de l'aberration. On vous programme, comme si vous étiez un ordinateur. Puis tout à coup, vous êtes déprogrammé.
C'est pas
correct. Tu vois, alors, le milieu, c'est le Christ. C'est Christ. C'est avoir affaire avec le Christ. Et le Christ donne l'équilibre. Et c'est ça qui est très... très tragique, on n'est pas équilibré. Oui.
Dans Colossiens, chapitre 1, de verset 20, on va avoir une compréhension par rapport à lorsqu'il parle, il a voulu parler et continuer tout avec lui-même, tant ce qui est sur la terre que ce qui est dans les cieux. On va savoir pour tout ce qui est dans les cieux, quel était sa réconciliation.
Ben, c'est la réconciliation aussi des anges, parce que la chute, n'est-ce pas, a amené même, non pas seulement une le drame, la séparation d'avec sur la terre, mais aussi dans les cieux. Et c'est pour ça que maintenant, par le Christ, il y a aussi cette réconciliation avec toutes les créatures célestes. Mais c'est de nouveau tout un domaine que nous devrions explorer, où nous devrions connaître davantage ces lieux célestes et les créatures célestes. Donc Paul nous parle, il dit que maintenant toutes les familles dans les cieux et sur la terre, il y a des familles célestes qui ont aussi été réconciliées par l'œuvre de Christ. Il y a dans la version... parole vivante, Oui, il y a cette petite note sur ce verset 20. La réconciliation obtenue par Christ au prix de sa mort ne concerne pas seulement l'humanité pécheresse, elle touche l'univers entier devenu hostile à Dieu par suite de la révolte de Satan. N'est-ce pas? Il y a eu une révolte aussi chez les anges. Éphésiens 1, verset 10, Romains 8. Toute la création est asservie, n'est-ce pas? Alors, par la chute, l'homme fut séparé non seulement de Dieu, mais aussi des anges. Il devait donc être réconcilié aussi avec eux. L'Église forme désormais avec eux une seule famille dont Dieu est le Père. C'est ce que tu as dans Éphésiens 3. Je fléchis les genoux devant le Père duquel est nommée toute famille dans les cieux et sur la terre. Ça touche loin la réconciliation du Christ. Ce n'est pas seulement pour nous sur la terre, mais aussi avec les êtres qui sont dans les cieux.
Si je comprends bien, est-ce que les âmes qui ont déchu, qui ont été déchues, à cette révolte avec Satan, auraient une occasion de se réconcilier avec leur Dieu?
Non, je ne pense pas à cela parce que. Ils sont en prison, n'est-ce pas? Ils ne sont pas dans les cieux, ils sont dans la prison, comme ils les disent, ce qu'on appelle l'enfer, si tu veux, déjà, mais un lieu de ténèbres enchaîné en vue du jour du jugement. Mais il y a eu un drame, et il a fallu que, par le sang de Christ, purifie aussi les cieux. Pas seulement la terre, mais aussi les choses qui sont dans les cieux. Il y a eu quelque chose qui nous échappe à nous, mais il y a eu un trouble aussi dans les cieux à la révolte de l'ange. Alors il y a purification des cieux. À autre chose? Oui.
Parce que Dieu est dans les cieux, il y a encore des combats. Dieu nous appelle à régner avec lui. Il peut vraiment dans ce monde à gouverner, par l'unité de son royaume. Et peut-être lorsqu'on va être dans sa présence, dans son royaume, on va se mettre encore à se défendre, à combattre.
Non, parce que Satan sera lié quand le Seigneur sera venu. Hein. Quand le Seigneur sera venu et nous aura pris, Satan est précipité sur la terre. Alors il n'y a plus de combat dans les cieux. Le combat a lieu dans le 12 de l'Apocalypse entre Michel et les anges de Satan et Satan lui-même. Et il est précipité sur la terre. Mais alors, sur la terre, ce sera quelque chose d'épouvantable. Et on assiste déjà au commencement de cela. Et il y a des puissances occultes maintenant sur le monde. C'est quelque chose que l'on sent de plus en plus, n'est-ce pas? C'est comme au temps du déluge. Au temps du déluge, il y avait des puissances. N'est-ce pas, les fils de Dieu qui étaient venus vers les filles des hommes, il y avait des puissances angéliques, surnaturelles, qui ont contaminé, enfin qui ont possédé l'humanité. Et maintenant, on est dans un même temps. Et Jésus, du reste, l'a annoncé, il en sera comme au jour de Noé. Vous voyez toutes ces puissances. Mais alors, nous, chrétiens, nous avons, pour combattre, alors maintenant, sur la terre, nous avons l'armure complète de Dieu, pour que nous puissions résister.
Donc, dès qu'on soit dans le royaume, on va être parfait, on n'y aura plus de place au péché.
Non.
Allons-nous encore avoir un libre choix, un libre arbitre? On va être dans la même position que ça l'était au début. Et pourtant, au début, j'ai eu.
Non, mais c'est définitif, parce que nous aurons notre corps de gloire. Il n'est plus question que nous ayons à nous décider. La décision. Le salut qui nous a été donné, c'est un salut complet. Alors c'est définitif, c'est pour l'éternité.
Mais
nous n'avons le libre choix, c'était d'obéir à Dieu. Oui, d'accord, mais non, ça ne peut pas se reproduire. Rien ne vous dit dans la parole, c'est tout le contraire qui est dit. C'est pas quelque chose qui va se reproduire, parce qu'on n'en finirait jamais. Non. Non, mais nous, votre libre arbitre, votre choix, il est fait maintenant d'une façon définitive et pour l'éternité. Alors il ne vous sera pas redemandé de choisir. Vous ne pouvez pas faire autre chose que de suivre le Seigneur. Oui. Vous êtes préoccupé par les récompenses? Mais il y a plusieurs choses, mais les récompenses sont très diverses. C'est le Seigneur qui va. Il y a des couronnes, n'est-ce pas, qui sont. Il y en a cinq qui sont nommées, des couronnes différentes, suivant ce qui aura été donné. Mais on ne doit pas faire les choses pour une récompense. On doit faire les choses par amour. Et que le Seigneur veuille nous récompenser, ça c'est une autre affaire. Et s'il me donne une récompense, qu'est-ce que j'en ferai? Je la jetterai à ses pieds. La récompense, elle est intéressante pour nous, parce qu'on ne voudrait pas avoir les mains vides. Mais ce n'est pas nous qui allons la garder. Il est dit que les saints, dans la gloire, ils jettent leur couronne, non, ils enfoncent leur couronne dans leur crâne. Dis mon Christ, ton couronné. Non. Ils prennent leur couronne et ils la jettent au pied du Seigneur. Comprenez-vous? Alors, on ne travaille pas pour une récompense, mais par amour. Mais il y a, c'est vrai qu'il y a des récompenses, et que la vie, maintenant, notre vie chrétienne, c'est un capital extraordinaire. Mais on ne fait pas ça pour une récompense. Comprenez-vous? Et puis, l'ouvrage de chacun sera manifeste. Alors, toutes nos œuvres seront éprouvées par le feu. Ce n'est pas les œuvres qui sauvent. Mais si on a eu la foi réelle, eh bien, c'est une foi qui aura produit des œuvres. Et alors, Dieu, dans sa grâce, veut pouvoir récompenser les siens. C'est à quelle heure, Noël, le souper? Oui. Ben, il est le premier en tant qu'homme, il s'était fait homme, hein, c'était le secret de Dieu. Le Christ s'est fait homme, quel mystère, hein. Dieu fait homme. Et puis, en tant qu'homme, alors, il a passé par la mort. Mais il n'est pas resté dans la mort. Certes, il y a eu des résurrections, mais toutes ces résurrections, que ce soit celle de l'Ancien Testament, il y en a déjà eu dans l'Ancien Testament, ou que ce soit celle du Nouveau Testament qui nous sont racontées, Lazare, le fils de la veuve de Naïm, et puis la fille de Jaïrus, hein, ce sont des gens qui sont de nouveau morts. Ils ont été rappelés à la vie pour un temps, puis après, ils sont morts. Tandis que Jésus, lui, est revenu de la mort pour ne plus mourir. Il est le premier-né d'une nouvelle création, n'est-ce pas, qui ne meurt pas. Alors, c'est le premier. Puis ensuite, il y a ceux qui sont du Christ à sa venue, puis la fin. Ça va? Oui? C'est faire sa volonté. Oui. Oui. Et vous voyez, vous pouvez rapprocher ça de Romains 13. Vous avez revêtu Christ. Alors, nous traversons ce monde revêtu de Christ. Nous marchons en lui, caché en lui. C'est pas l'homme qu'on voit, c'est le Christ. Le fruit de l'esprit, l'amour, la joie, la paix, à la chair, et aux œuvres de la chair, qui sont les divisions, les querelles et tout cela. Oui?
C'est 1 Pierre 4, 17, je vais vous dire, C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est parmi ces semaines, quelle sera la fin de ceux qui ne veulent pas l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront les fils de pécheurs? Et maintenant, dans deux pierres, trois pierres, le Seigneur nous met en garde, comme toi, il nous met aussi en garde dans l'Égypte qu'on veut être. De croire que la foi des faux acteurs, des faux prophètes. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui avertis, mettez-vous. Averti, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre famille. Est-ce que ça voudrait dire que, je ne sais pas, bientôt le Seigneur va se servir de certaines tribulations qui vont juger ses propres assemblées?
Ah, c'est vrai. Oui, absolument. Ça, j'en suis convaincu. Maintenant, vous avez des froids, des tièdes et des bouillants. Mais les épreuves vont être telles que vous ne pourrez plus rester tiède. Si vous avez vraiment la vie de Dieu et que vous vous êtes attiédi, ce qui peut m'arriver à moi, hein, ce qui peut nous arriver à tous, voilà qu'on s'attiédit, eh bien, le Seigneur, par certaines épreuves, nous obligera de prendre position, de montrer la couleur de notre peau. Alors, si j'ai réellement la vie de Dieu, de tiède que j'étais, eh bien, je deviendrai bouillant, n'est-ce pas? Je prendrai position, je serai réveillé. Aie donc du zèle et repens-toi. Il y a possibilité de repentance pour un tiède qui a la vie de Dieu. Mais pour celui qui n'a eu que l'apparence de la piété, la forme de la piété, eh bien, dans les épreuves qui vont venir sur la maison de Dieu, eh bien, il n'a pas la force, alors il prendra le chemin du reniement. Ah oui.
Des démoniaques et de la démonie.
Ah oui, mais ça c'est vrai.
Au point de séduire même.
Oui. Et c'est pour cela, n'est-ce pas, que c'est pas la perte du salut, mais il y a des gens qui s'illusionnent sur leur salut. Et je trouve que c'est très, et c'est terrible, la manière dont beaucoup évangélisent aujourd'hui. Ce que j'appelle une évangélisation industrielle. Instantané. On vous donne 4 minutes si vous êtes conseillé pour faire noter à quelqu'un là, les 4 lois spirituelles, qui sont vraies, les lois spirituelles. Mais ça ne se fabrique pas comme ça. On ne prend pas une méthode comme ça. C'est pas ça, une nouvelle naissance. Alors vous donnez le petit certificat de salut à quelqu'un, puis ça ne tient pas. Alors, et on pousse, on conditionne l'auditoire par une atmosphère musicale ou que sais-je encore, et puis on présente un salut qui est facile. Puis alors les gens se disent sauvés, mais ils n'ont pas été régénérés, ils ne sont pas nés de nouveau. Ils n'ont pas passé par une réelle repentance. Alors ça tient, est-ce que ça peut tenir? Je ne dis pas que dans ces réunions-là, il n'y ait pas de vrai sauvé, parce que c'est Dieu qui sauve et qui est miséricordieux, malgré nos méthodes. Mais nous n'avons pas de méthode pour sauver les âmes. Et alors, c'est ce que le Seigneur... Alors, évidemment, pour justifier tout le déchet de ces grandes réunions, parce qu'il y a du déchet, hein, incroyable, il y a un déchet incalculable, alors on parle de la perte du salut. Et c'est une doctrine que... Soi-disant, vous pouvez perdre votre salut. Vous avez pu être sauvé, mais vous pouvez perdre votre salut. Alors, vous n'avez plus jamais d'assurance. Or, le Seigneur a dit d'une façon claire que un jour, quand la porte sera fermée, il y aura des gens qui viendront et qui frapperont à la porte et qui diront « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Et le Seigneur leur dira qu'il ne les connaît pas. Il dit, mais Seigneur, n'avons-nous pas mangé et bu en ta présence? On aura pris la Sainte Cène, on aura pris l'Eucharistie, on aura communié. Hein? N'avons-nous pas mangé et bu en ta présence? Ça, c'est la Cène. Hein? N'as-tu pas enseigné dans nos rues? On est venu à des réunions, on a été enseigné, on a participé à des retraites. On a entendu l'enseignement du Seigneur. Puis même plus, n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Il y a des gens qui auront fait des miracles. Et qu'est-ce que le Seigneur leur dira? je ne vous ai jamais connu. Or, ces brebis, il dit, mes brebis, je les connais. Elles ne suivront pas la voie d'un étranger. Donc, s'il dit, je ne vous ai jamais connu, c'est qu'il n'y a jamais eu de relation personnelle entre le Seigneur. C'est une chose de dire, je te connais, Seigneur. Mais lui, est-ce qu'il peut dire, moi, je te connais? Est-ce qu'il y a une relation? Alors, c'est cela. Je suis assuré, je crois que le vrai chrétien ne veut pas perdre son salut. Mais on peut s'illusionner au sujet de notre salut. Et vous savez, quand la parole de Dieu nous atteint en profondeur, elle n'apporte pas tout de suite de la joie. Elle nous juge. Puis on passe un mauvais quart d'heure. C'est vrai ou c'est faux? Parce que si ce n'est pas tout de suite au début de la conversion, ça sera plus tard. Que vous verrez pire que jamais, et que vous douterez même de votre salut, jusqu'à ce que vous compreniez que ce qu'était la chair, le Seigneur ne vous a pas, n'a pas dit que la chair allait s'améliorer. Plus j'avance dans la vie spirituelle, plus je me détourne de moi-même. J'ai horreur de moi. Vous pouvez prendre tous les hommes de Dieu, quand ils se sont trouvés dans la présence immédiate de Dieu, ils se sont effondrés. C'est une faillite. Mais si vous êtes sûr de vous, vous allez vers la faillite. Pierre dit, quand même tous t'abandonneraient, moi. Il a jugé tout le monde. Moi, je ne t'abandonnerai pas. Et puis, ce Seigneur qui lui avait lavé les pieds ce soir-là, il doit entendre Pierre dire, je ne connais pas cet homme. Quand même terrible. Voilà ce que c'est que la chair. Ce que ma chair est capable de faire. Alors je dois me défier de la chair. Parce que l'homme le plus pieux comme David, pour un moment où il n'est pas à sa place, il convoite. C'est tout ce que notre chair peut faire. Et pourtant il avait toutes les femmes possibles. Et il en voit une autre. Et sa chair n'est pas améliorée. Alors on ne joue pas avec cela. Ne pensez pas. Vous voyez, le monde, il court vers la tentation. Puis il dit, oh mais stop, moi je m'arrêterai. Et quelqu'un m'a dit l'autre jour à Heurth, est-ce que c'est permis de voir entre un ménage, un couple, des films pornographiques, seulement entre nous, pour ma femme et moi? Mais vous voyez où on en est, hein? Oh, on ne veut pas le montrer aux enfants. Quand les enfants seront couchés, on regardera un film pornographique. Est-ce que c'est pas mal, je fais de mal à personne. Quelle pensée est-ce que vous avez après ça? Bon, ça vous a renouvelé pour votre couple. Vous aviez besoin de ça. Hein? Alors, qu'est-ce qu'il faut dire? Mais le jour suivant, hein, vous avez regardé ça seulement pour votre femme et vous. Puis après, vous sortez, vous allez à votre travail. Puis il y a justement une de ces femmes qui vous offre tout ce que vous avez vu. Oui, mais c'est pas la vôtre maintenant. C'est une de ces dames. Bon. Alors, est-ce que vous êtes en état de lutter? Vous êtes rempli de ça. Puis après, vous dites, mais comment est-ce que le Seigneur m'a permis que je fasse cette rencontre? Lisez les proverbes et vous verrez. Il faut être sage. Et il y en a qui pensent qu'on peut se plonger dans un tonneau de suie et sortir blanc, comme ça. Moi, ça ne me touche pas. Je me mets dans la suie, mais je suis tout blanc. Ou bien alors, je me mets dans un sac de farine, puis je sors tout noir. C'est vrai? On est drôlement imbécile. Ayez un peu de bon sens. Mais on entend de ces choses, mais... Il n'y a pas de mal du moment que ça m'inspire. Ça ira mieux dans mon ménage. Alors vous voyez comme on est loin de la sainteté de Dieu. C'est déjà notre dernière soirée. Et le Seigneur veut nous bénir dans les derniers moments de cette fin de semaine d'octobre. Nous continuons donc notre étude sur votre ressource pour tous les temps, le Christ en vous, l'espérance. et même on peut dire l'assurance de la gloire. Après avoir connu la grâce, nous connaîtrons la gloire. Ce serait quelque chose de vraiment merveilleux. La gloire, la gloire. Après avoir connu la grâce, il y a devant nous la gloire. Quel Dieu que ce Père du ciel, qui nous a tellement aimés et qui de toute éternité nous a prédestinés à la gloire. Pas aux humiliations du sépulcre, pas à la souffrance, pas à la mort, mais justement à être conforme à l'image de qui ? De son Fils bien-aimé. C'est cela la volonté de Dieu, c'est cela que veut notre Père des cieux. Et nous voudrions apprendre à le connaître. Nous voudrions aussi apprendre à connaître un peu ces demeures de cette maison du Père. Et je me demandais tout à l'heure, en priant, est-ce que Dieu nous donne le goût des choses d'en haut ? Le goût des choses célestes. Alors que tant d'hommes, tant de femmes dans notre génération ont encore le goût des choses du monde. Et vous savez, avec le goût des choses du monde, on finit par avoir la nausée. Et ce n'est quand même pas drôle pour nous qui vivons au Québec d'apprendre que c'est le pays au monde où il y a le plus de suicides parmi les jeunes. Le pays du monde où il y a le plus de suicides, c'est le Québec. Quand même effrayant. Alors je crois que nous avons besoin de nous ressaisir, de réfléchir. Seigneur notre Dieu, nous voudrions entendre ta voix. Nous voudrions que tu puisses nous parler avec amour, mais aussi avec vérité. Et que tes paroles, nous les prenions au sérieux. Je voudrais dire tout de suite que avoir tout pleinement en Christ, ça ne veut pas dire que nous n'aurons pas à souffrir. Et il faut bien s'entendre. Quand nous disons que nous avons tout pleinement en Christ, qui est-ce qui a dit cela ? C'est Paul, hein ? Mais celui qui a dit que nous avons tout pleinement en Christ, il peut dire, je me réjouis maintenant dans les souffrances. Avoir tout pleinement en Christ, ça ne veut pas dire être exempté de la souffrance. Et si vous aviez cette pensée, bien bannissez-la. Jésus ne nous a pas trompés. Il nous a annoncé que si nous voulions le suivre, nous aurions à souffrir. Pour un chrétien, les souffrances, ça se trouve dans le programme. Alors nous ne sommes pas surpris. Nous ne trouvons pas étrange que nous ayons à souffrir. Et c'est ce que souligne aussi l'apôtre Pierre. Nous devons nous attendre à la souffrance. Et dans l'Épître aux Hébreux, il est dit que Jésus, en tant que fils, il a appris l'obéissance par quoi ? Par les choses qu'il a souffertes. Alors, si le Fils de Dieu, en tant qu'homme, parce que pour lui, c'était une chose nouvelle d'obéir, puisqu'il était Dieu, mais se faisant homme, par quoi a-t-il appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Alors, combien plus devons-nous comprendre que nous, avec cette nature que nous avons reçue en Adam, eh bien, combien plus devons-nous comprendre que nous ne pouvons pas être exempts de la souffrance. Qu'est-ce qui nous forme, qu'est-ce qui nous façonne ? C'est la souffrance. Qu'est-ce qu'on apprend, au fond, en dehors de la souffrance ? Et comment pouvons-nous comprendre les autres si nous ne savons pas ce qu'est la souffrance. De sorte que, au lieu de voir quelque chose de tragique dans la souffrance, eh bien, nous ne la demandons pas, la souffrance, mais nous sommes prêts à l'accepter. Et nous ne nous révoltons pas. Parce que nous savons que Dieu conduit toutes choses vraiment pour notre bien. Donc, je souligne que cette vérité que nous avons tout pleinement en Christ, ça ne veut donc pas dire que nous n'aurons pas à souffrir. Et nous avons vu que l'événement vraiment qui nous sauve, c'est vraiment ce qui s'est produit au calvaire. Et c'est quelque chose qui est tellement grand. Le Fils unique de Dieu a été crucifié. Et il a été crucifié pour nos fautes. De sorte que ce si grand salut qui a coûté la vie au Seigneur Jésus, bien, que pouvez-vous ajouter à cela? Rien. Nous avons tout dans le sacrifice du Christ. C'est ce que nous avons lu dans ces versets 14 et 15 de ce chapitre 2. De sorte que maintenant, si on vient nous dire que il faut nous abstenir de manger de ceci ou de boire de cela, ou qu'il faut suivre certains préceptes au sujet d'une fête, la nouvelle lune, des sabbats, mais tout cela, c'était l'ombre des biens à venir. Nous avons une connaissance extraordinaire de notre salut en Jésus-Christ à la croix du calvaire. Et nous n'allons pas retourner à ces pauvres éléments qui n'étaient que des ombres, des choses à venir. Maintenant, le corps, la réalité, elle est dans le Christ. Le verset 18, qu'aucun homme, sous une apparence d'humilité et par un culte des anges, ne vous ravisse à son gré le prix de la course. Il y a un prix à notre course. Mais pour avoir ce prix, que devons-nous faire, selon l'Épître aux Philippiens? Avoir les yeux fixés sur qui? Sur le Christ. Nous courons droit au but. Nos yeux ne seront fixés que sur le Christ. Mais ces faux docteurs prétendaient, il ne faut pas déranger le Seigneur. Alors, c'est peut-être bien que nous passions par des intermédiaires, par les anges. Alors, on a mis toute espèce d'intermédiaires, parce qu'il ne faut pas déranger le bon Dieu. Alors, il vaut mieux s'adresser à ses serviteurs. C'est ça, au fond. Bien non, j'aime mieux m'adresser directement à mon Père des cieux. Parce que c'est cela que le Seigneur nous a lui-même appris. Quand vous priez, dites, Michel, Marie, notre mère, notre Père. C'est à lui que nous devons nous adresser. Et c'est au nom de qui que nous nous adressons à lui? Au nom de son Fils. Et qu'est-ce que son Fils nous a dit? Qu'il était toujours exaucé. Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alors, n'ayez pas cette idée que c'est beaucoup plus humble de s'adresser aux serviteurs, aux anges. Ça paraît justement à avoir de l'humilité, tout ça. Mais ce sont des apparences. Nous ne voulons pas des apparences. Et nous voulons avoir le prix de la course. Alors, pour avoir le prix de la course, fixons les yeux sur Jésus et sur Jésus seul. Laissons toutes ces visions que bien souvent nous réclamons, car celui qui s'adonne à ces visions, il est dit qu'il est enflé d'orgueil et qu'il a des pensées charnelles. Une autre version dit au sujet de cela, verset quel est le verset que nous avons lu, 18, hein, que personne sous prétexte d'humilité et d'un culte des anges ne vous conteste à son gré le prix de la course. Un tel homme s'abandonne à des visions, il est enflé d'un vain orgueil par ses pensées charnelles. Ça vient de la chair. Au lieu de s'attacher à qui ? Au chef. Par qui tout le corps soutenu est rendu cohérent par les jointures et les articulations grandit d'une croissance qui vient de Dieu. Ces jointures dont il est parlé, ces liens, eh bien, ce sont les différents ministères que le Seigneur a donné à l'Église pour son édification. Alors, maintenant, nous entrons dans ce grand sujet. Verset 20. Si vous êtes mort avec Christ, au rudiment du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposez-on ces préceptes ? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Préceptes qui tous deviennent pernicieux par l'abus et qui ne sont fondés que sur des ordonnances et des doctrines des hommes. Notre salut, nous l'avons complètement en Jésus-Christ et en son œuvre sur la croix. Vous ne pouvez rien ajouter. Qu'est-ce qu'il a dit sur la croix, Jésus, avant de mourir ? Tout est accompli. Alors, ne vous laissez pas enseigner toute espèce de choses que vous devez ajouter pour votre salut. En Jésus, vous avez tout. Et puis, il est dit que vous êtes mort. Ce qui s'est passé pour le Christ à la croix, s'est passé maintenant pour vous. Tout ce qui s'est passé en Christ s'est passé en vous. Vous êtes mort. Quand vous avez accepté Christ, le Christ, eh bien, sa mort est devenue votre mort. Alors, à ce monde, vous êtes mort. Qu'est-ce que ce monde peut encore vous donner ? Vous êtes mort. Tout cet enseignement, il vient du monde. Mais à ce monde, vous êtes mort. Dans la mort de Christ, qu'est-ce que vous trouvez ? La délivrance de quoi ? Dans la mort de Jésus. La délivrance de l'esclavage du péché, mais d'abord, la délivrance de la peine du péché. Le jugement ne tombera plus sur vous, puisqu'il est tombé sur lui. C'est la première chose. Christ est mort pour nos péchés. Le jugement, c'est lui qui l'a subi. Et il ne tombera plus sur nous. Par ses meurtrissures, nous avons la guérison. Mais une deuxième chose, c'est que nous sommes morts en lui au péché. Le péché ne dominera plus sur vous. Si réellement vous êtes mort, qu'est-ce que le péché peut faire sur un mort ? Est-ce qu'un mort peut encore convoiter ? Quand il est mort, il est mort. Eh bien, l'Écriture nous dit, tenez-vous pour mort. C'est une question de foi. En la chair de Christ, dans son corps, les péchés que moi j'ai commis dans la chair, ils ont été jugés dans sa chair. C'est Romains 8. Les péchés que nous, nous avons commis dans la chair, ils ont été jugés dans la chair du Christ. Alors maintenant, eh bien, nous sommes morts, tenez-vous pour morts au péché. Le péché ne dominera plus sur vous. Nous sommes morts au péché, mais nous sommes morts aussi à la loi. La loi, on l'a vu, a été satisfaite par l'œuvre de Christ. Les exigences de la loi, qu'est-ce qui les a subies ? Jésus. De sorte que vous n'êtes plus sous la loi. Vous êtes mort à la loi. C'est plus elle qui vous dirige. Vous êtes maintenant sous la grâce. C'est l'enseignement de la grâce qui va vous conduire. Mais non seulement nous sommes morts à la loi, mais nous sommes morts au monde. C'est ce que saint Paul dit. J'ai été crucifié au monde et le monde m'est crucifié. Je n'ai plus à recevoir mes directions du monde. Le monde doit savoir que pour lui je suis mort. Mais est-ce qu'il le sait? Est-ce que vous vous tenez réellement pour mort quant à ce monde? Ou bien est-ce que le monde a encore un attrait pour vous? Est-ce que vous avez encore le goût du monde? Vous croyez qu'un mort a le goût du monde? Non, il est mort, c'est fini. Il a pu avoir le goût du monde longtemps, mais une fois mort, il n'a plus le goût du monde. Et nous dirons même aussi que quant à la mort qui peut nous effrayer, nous sommes aussi morts. Nous sommes morts. Nous sommes délivrés de la crainte de la mort. C'est quelque chose de merveilleux. Tout cela dans la mort de Christ. Il est dit qu'à cause de la crainte de la mort, pendant toute leur vie, les hommes sont tenus sous la servitude. Mais le Christ étant mort, étant ressuscité, il nous délivre de la crainte de la mort. Nous n'avons plus cette crainte de la mort. Parce que lui l'a vaincu et en Jésus, nous avons la victoire. Alors, ne nous laissons plus impressionner par toutes ces choses. C'est du passé. Et ceux qui viennent vous dire qu'il faut encore ceci, encore cela, pour votre salut, c'est faux. Ils ont peut-être à la vérité une apparence de sagesse, ces choses que l'on vous dit, mais ça n'a aucun mérite et ça ne contribue qu'à la satisfaction de la chair. Il est dit dans une autre version que ça n'aboutit qu'à nourrir l'orgueil des gens qui veulent se mettre en valeur. Toutes ces choses qu'on ajoute, ça n'aboutit qu'à nourrir l'orgueil des gens qui veulent se mettre en valeur. Mais ces choses-là n'ont aucune puissance pour nous délivrer des désirs de la chair, de la convoitise de la chair. Alors prenons maintenant le chapitre 3. Si donc vous êtes ressuscité avec le Christ, donc d'une part, nous sommes morts quand on accepte Christ. Sa mort devient notre mort. Et puis maintenant, sa résurrection devient notre résurrection. Nous sommes ressuscités avec le Christ. Alors, qu'est-ce que nous devons chercher? Les choses qui sont en nous. Nous avons une nouvelle nature. Nous avons de nouveaux goûts. C'est pourquoi je vous disais, est-ce que vous avez le goût des choses d'en haut? Si vous avez été ressuscité avec le Christ, cherchez ces choses qui sont en haut. Mais est-ce qu'elles vous sont familières, ces choses qui sont en haut? Pour que les choses qui sont en haut vous intéressent, qu'est-ce que vous devez avoir en haut? Des intérêts, oui. Et quel est votre intérêt là-haut? C'est le Christ. Au fond, les apôtres, quand ils ont vu le Seigneur s'en aller au ciel, on peut dire que leur cœur est parti avec Jésus. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si votre trésor est encore dans le monde, votre cœur est encore dans les choses du monde. Et les choses du monde ont une emprise sur vous. Mais si réellement vous êtes mort avec le Christ, les choses de ce monde perdent toute leur valeur. Les choses du monde n'ont plus aucun attrait pour un mort. Et c'est dans cette mort avec Christ, cette mort que nous avons dans la foi, c'est dans cette mort que nous avons la délivrance. Il n'y a pas de délivrance en dehors de cette mort. Mais nous ne restons pas dans la mort, nous sommes ressuscité. L'objet de nos affections étant dans le ciel, nous aimons les choses qui entourent la personne de Christ. Le Christ, il est là-haut, assis, à la droite de Dieu. Alors, on s'affectionne aux choses d'en haut. Mais Jésus l'avait dit, si vous ne croyez pas quand je vous parle des choses terrestres, si vous ne comprenez pas, mais comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Il voudrait que ces choses célestes nous deviennent familières. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes mort. Qu'est-ce qu'il le dit? C'est sa parole. Comment est-ce que vous savez que vos péchés sont pardonnés? Par la parole. Comment est-ce que vous savez que vous êtes mort? Parce que vous le sentez? Non, mais parce que la parole le dit. Et ce qu'il dit, je le crois. Vous êtes mort. Et votre vie, elle est où? Cachée dans le Christ en Dieu. Votre vie, elle est cachée dans le Christ en Dieu. C'est là qu'est votre vie. Mais alors, si elle est cachée dans le Christ, votre vie, qu'est-ce que Dieu voit en vous? Il voit Jésus, il voit son Fils. Il voit les perfections de son Fils. Alors, regardez, si vous voulez savoir ce que vous êtes aux yeux de Dieu, qui devez-vous regarder? Jésus. C'est Jésus que vous devez regarder, c'est lui que vous devez contempler. C'est lui qui est votre vie. Sa vérité, sa sainteté, sa justice, son amour, tout ce qu'il est, c'est vous. Tout ce que vous voyez en vous de charnel, c'est où? À la croix, dans sa mort. Tout ce que vous étiez, il l'a été. Et tout cela a été jugé. Est-ce que Jésus est resté sur la croix? Non. Ce n'est plus visible. Il a été enseveli. Et vous aussi, vous avez été enseveli. Alors n'allez pas déterrer votre cadavre. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Ils sont toujours au cimetière à creuser, à retourner leur cadavre pour voir si ça améliore. Et voilà, vous n'êtes pas amélioré parce que vous n'êtes pas embaumé. C'est tout à fait normal que quand vous allez déterrer tout cela, vous trouviez quelque chose de plus pourri, de plus corrompu. Finissez-en avec votre cadavre. Levez-vous de devant votre mort. Finissez-en de pleurer sur vous-même. Mais regardez le Christ. Et quand vous regardez le Christ, qu'est-ce qui vous arrive? Par reflet, vous le manifestez. Contemplant à visage découvert la gloire du Seigneur, nous transformons? Non, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Maintenant, absorbez-vous dans le Christ. Devenez vraiment de ceux qui contemplent le Christ. Alors, votre vie, elle est cachée dans le Christ, puis quand le Christ qui est votre vie, quand le Christ, votre vie, vous voyez que c'est pas moi qui le dis, mais votre vie, c'est le Christ. Paul dit dans l'Épître aux Philippiens, Christ est ma vie. Et votre vie, c'est le Christ. Quand le Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. C'est le Christ qui vous montrera. Alors, cessez de vous montrer vous-même au monde. Montrez le Christ. Et vous, cachez-vous. Soyez cachés en Dieu. Ce n'est pas vous que le monde veut voir. Il veut voir le Christ. Et alors, quand lui viendra, c'est lui qui vous manifestera. Et alors là, ça ne sera pas charnel. On verra en vous contemplant ce que Dieu a fait en vous. Il est dit que le Seigneur, quand il reviendra, il sera admiré dans les saints et glorifié dans tous ceux qui auront cru. Il sera admiré dans les saints. on verra en vous l'œuvre que Dieu a opérée. On verra plus que Christ. Lui vous manifestera en gloire. Voyez-vous, moi je crois que nous nous sommes trop montrés dans ce monde, et le monde est dégoûté. Mais nous ne l'avons pas montré, lui. Montrons Jésus. Et le monde a besoin de voir Jésus. Mais pour cela, il nous faut réaliser la mort. Je suis mort. Je suis mort. Mais verset 5. Nous avons pris cette position de foi que nous sommes morts. Alors, maintenant, verset 5, il est dit, faites mourir les membres qui sont sur la terre. Vous êtes morts, hein? Alors, si vous êtes morts maintenant, faites mourir. Mais par quelle puissance? Qu'est-ce qui peut nous maintenir dans la mort? Le Saint-Esprit. Notre chair, nous ne pouvons pas nous la maintenir dans la mort. Mais qu'est-ce qui peut maintenir notre chair dans la mort? La puissance du Saint-Esprit. C'est là que j'ai besoin de puissance. La puissance du Saint-Esprit, j'en ai besoin pour maintenir ma chair dans la mort. C'est nourrir quoi, les membres qui sont sur la terre. Parce que c'est avec quoi que nous péchons? Avec nos membres. Alors, ces membres, eh bien, je les livre à Dieu. Parce que on les a donnés au Seigneur, il les a pris dans sa mort, et nous sommes maintenant ressuscités, de sorte que nos membres, notre corps, à qui est-ce que nous allons le livrer? Romains 6, on va le livrer à Dieu. Livrez votre corps à Dieu. Livrez vos membres à Dieu comme des instruments de justice. Mais alors, faites-vous mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, est-ce que l'impudicité doit encore avoir droit à vos membres? Quand l'impudicité de ce monde se présente, est-ce que vous allez lui donner vos membres? Non. Vous êtes mort, n'est-ce pas? Alors, l'impudicité, elle est là, dans ce monde. C'est vrai. Faites donc mourir votre nature terrestre. Vous croyez que vous êtes mort? Eh bien, vivez cette mort. Vivez chaque jour cette mort. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Portant toujours, partout, dans le corps, là où la vie voudrait se manifester, la vie terrestre, j'y porte la mort de Jésus. Portant toujours partout dans le corps la mort de Jésus, afin que la vie soit manifestée dans notre chair mortelle. Alors, quand l'inconduite est là, quand l'impureté est là, quand les passions viennent, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie, qu'est-ce que c'est que la cupidité? C'est ce désir de s'enrichir, ce désir immodéré de s'enrichir. Mais qu'est-ce que c'est? C'est une idolâtrie. Appelez cela péché. Appelez ce que Dieu appelle péché, appelez cela aussi péché. Mais quand on appelle plus cela péché, eh bien, on s'y livre. Alors, il n'y a pas de miracle. Mais si vous appelez cela péché, vous aurez la délivrance. Car verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses. Toutes ces choses qu'on appelle plus péché, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, tout cela ce n'est plus appelé péché. C'est la raison de vivre d'une multitude de gens. C'est vrai ou c'est faux? La raison de vivre de beaucoup de gens, c'est le péché. Mais ça s'appelait plus péché. Mais c'est à cause de cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, autrefois, nous marchions avec ces choses. Lorsque vous viviez dans ces péchés, avant nous vivions dans ces péchés. Mais maintenant, nous sommes morts. Ces péchés sont là, mais nous sommes morts. Alors, est-ce que ces péchés peuvent dominer un mort? le mort le répond. C'est comme ça qu'on est libéré. C'est de vivre cela par la foi. Alors, verset 8. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Elles sont là, ces choses. Mais si vous vous réclamez de Jésus, qu'est-ce que vous êtes en Jésus? Vous êtes mort. C'est vrai ou c'est faux? C'est la parole qui vous le dit. Vous êtes mort. Alors maintenant, puisque le Saint-Esprit est en vous, par le Saint-Esprit, eh bien, tenez-vous pour mort. Tenez-vous pour mort. Si vous ne vous tenez pas pour mort, qu'est-ce que vous faites? Vous contristez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudrait vous tenir dans la mort. Mais si votre volonté n'est pas soumise au Christ et que vous donnez vos membres pour commettre ces choses, alors il n'y a pas de miracle. Maintenant, renoncez à toutes ces choses. Et qu'est-ce qui nous arrive? C'est que nous n'avons pas renoncé. Non seulement nous devions renoncer à nous-mêmes, mais nous devons renoncer aussi à toutes ces choses. Jésus ne dit pas, oh, je vous en supplie, suivez-moi. Il dit, vous voulez me suivre? Je veux bien. Mais alors, voilà ce qui vous attend. Jésus n'est pas un trompeur. Les prédicateurs sont des trompeurs. Nous sommes peut-être des menteurs parce que nous voulons sauver les âmes. Nous ne pouvons pas sauver les âmes. Qui est-ce qui sauve? C'est Jésus. Mais Jésus n'a pas exploité cela. Maintenant, renoncez à toutes ces choses et mettez dans toutes ces choses, mettez tout. Alors, à quoi est-ce que nous devons renoncer? À la colère. Oh, vous vous direz, mais moi, c'est facile. Il n'y a personne de colérique ici. Renoncez à la colère. La colère vient. Oh, mais vous dites, oh, mais moi j'ai seulement des saintes colères. Alors qu'est-ce que nous ajoutons à la colère? Le mensonge. Parce que c'est pas vrai. Elles sont bien rares, nos saintes colères. Qu'est-ce que c'est qu'une sainte colère? C'est la réaction du bien face au mal. La plupart du temps, nous ne réagissons pas. Tout le monde fait cela. Renoncer à la colère, à l'animosité. Ah, j'ai de l'animosité contre quelqu'un. À la méchanceté. Vous savez qu'on peut être méchant? Vraiment méchant? Et quand je vois ça, que je peux être méchant comme ça, je dois m'en juger. Je dis, Seigneur, c'est vrai que j'avais besoin d'un sauveur et d'un grand sauveur. À la calomnie. Qu'est-ce que c'est que la calomnie? C'est dire des choses fausses sur quelqu'un. Et on peut tuer quelqu'un, on peut détruire la réputation de quelqu'un. On raconte des choses inexactes. La calomnie. Aux paroles déshonnêtes. Vous savez qu'il y a des paroles déshonnêtes qui peuvent sortir de notre bouche? C'est dit que ça peut sortir de notre bouche. Ésaïe, quand il était dans la présence du Seigneur, de quoi a-t-il été convaincu? Du péché de ses lèvres. Péché de ses lèvres. Du malheur à moi, je suis perdu. Je suis un homme aux lèvres impures. C'est des paroles déshonnêtes qui peuvent sortir de notre bouche. Eh bien, nous devons renoncer à cela. Donc, dans la pratique, c'est se juger soi-même. Nous nous sommes repentis de nos péchés, une fois, mais maintenant, pratiquement, nous vivons dans le jugement de nous-mêmes. Je constate ce que je suis, mais je mets vraiment la mort sur tout cela. Je suis mort. Ne mentez pas les uns aux autres. Le mensonge, nous nous en sommes dépouillés. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre, mais le Christ est tout et en tous. Vous ne trouvez pas que c'est merveilleux? Le Christ est tout et en tous. Mais maintenant, j'aimerais que vous puissiez bien comprendre certaines choses. Nous mettons ici le vieil homme. Hein? Le vieil homme. Qu'est-ce que ça veut dire, le vieil homme? En opposition avec le vieil homme, qu'est-ce que nous trouvons? Le nouvel homme, hein? Ou l'homme nouveau. Le nouvel homme. Trois fois dans l'Écriture, il est question du vieil homme. Mais toujours, que ce soit dans Romains 6, ou dans Éphésiens 4, ou ici, le vieil homme est considéré comme étant mort. Qu'est-ce que le vieil homme? Le vieil homme, dans l'Écriture, c'est notre ancienne manière de vivre, avant notre conversion. Ce qui nous caractérisait avant notre conversion. Votre ancienne manière de vivre, ça s'appelle le vieil homme. Le Seigneur Jésus vous a racheté par son sang précieux de votre ancienne manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères. Alors, on peut dire que le vieil homme, il avait pour père et pour mère, le vieil homme avait pour père le péché. Et puis, pour mère, qu'est-ce qu'il avait? La chair. La chair et le péché, ou le péché et la chair, ont donné quoi? Le vieil homme. Le péché étant entré dans le monde, la chair étant faible, la chair a cédé au péché. Et le produit du péché et de la chair, ça a fait le vieil homme. Mais à la croix, le vieil homme a été crucifié en Christ. Votre ancienne manière de vivre a pris fin à la croix. Et dans la résurrection de Christ apparaît le nouvel homme, qui est alors l'enfant de qui? L'enfant de Dieu, mais on peut dire l'enfant de l'Esprit, vous êtes né d'eau et d'Esprit, l'enfant de l'Esprit, et de qui? De la, votre mère, qu'est-ce que c'est? La parole, n'est-ce pas? La parole qui est illustrée sans cesse dans l'Écriture par l'eau. Vous avez été engendré, n'est-ce pas, ou enfanté par la parole de Dieu. La vivante et permanente parole de Dieu. Alors, sous l'action du Saint-Esprit, quand vous vous êtes converti, eh bien, vous êtes né de la parole et de l'Esprit. Donc vous avez pour père, si j'ose dire ainsi, l'Esprit Saint qui dirige maintenant votre esprit, qui vous a régénéré, et vous avez la parole, qui est une vraie mère, qui nourrit l'homme nouveau. L'homme nouveau, il est nourri par l'Esprit Saint et par la parole. Il est guidé par l'Esprit. Et vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Si vous êtes guidé par l'Esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. J'aurais dû mettre l'Esprit et la parole et le nouvel homme en dessous, hein, comme ici aussi, le péché et la chair donnent le vieil homme. L'Esprit et la parole donnent le nouvel homme. Alors, ce que l'Écriture nous dit, c'est que maintenant, vous n'êtes plus débiteur à la chair pour vivre selon la chair. Au fond, la chair, elle a perdu son enfant. Le vieil homme est mort. Mais la chair, elle est toujours là en nous. Notre ancienne manière de vivre, elle a pris feu à la croix. Dans le baptême, nous avons témoigné que nous renoncions à cela, de sorte que maintenant, nous sommes débiteur, nous n'avons plus qu'à suivre les directions de l'esprit. Mais nous ne sommes plus débiteurs à la chair pour vivre selon la chair. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais évidemment, la chair est encore là et elle voudrait vous dominer. J'ai quelquefois dit que la chair, c'était, je m'excuse ici, c'était la vieille tante. J'ai été élevé par une mère que j'aimais beaucoup, mais elle avait deux belles sœurs qui étaient des tantes qui n'avaient pas d'enfants. Mais comme on vivait dans la même maison, ces tantes voulaient toujours, prétendaient toujours faire mieux que ma mère. Diriger. Ben non, nous ne sommes pas débiteurs à la chair pour vivre selon la chair. Nous vivons selon l'esprit. Notre mère spirituelle, c'est la parole de Dieu. Laissez-vous diriger par la parole de Dieu. Elle vous nourrira de ce lait pur dont parle l'apôtre Pierre, puis ensuite, quand vous grandissez, elle vous donne la viande. La parole vous donne une nourriture qui est adaptée à ce que vous êtes. Donc, comprenez-le bien, le vieil homme a été crucifié. Mais alors, ce que nous devons comprendre, c'est que ce vieil homme, non seulement a été crucifié avec Christ, mais il est enseveli. Alors, ce que nous ne devons pas faire dans les Colossiens, c'est aller au cimetière pour reprendre les habits du vieil homme, hein, les habitudes du vieil homme. Laisser le vieil homme avec ses habitudes. Parce que sans ça, il y aurait opposition entre l'homme et ses habits. Je dirais, le vieil homme, c'est l'être irrégénéré. Le nouvel homme, c'est l'être régénéré. Alors, ce qui peut arriver aux chrétiens, c'est de dégénérer. Vous ne pouvez pas être irrégénéré et régénéré en même temps. Mais ce que vous pouvez, c'est dégénérer. Et vous dégénérez quand vous allez reprendre les habits du vieil homme. Il y a opposition entre l'homme et ses habits et vous n'êtes plus un témoin. Quels sont vos habits? Vous êtes né de nouveau, mais vous revêtez les habits du vieil homme. Vous êtes né de nouveau, puis vous reprenez les habitudes du vieil homme. Vous reprenez toutes ces choses et qui sont dénoncées ici comme étant des péchés. Un chrétien qui ment, c'est un chrétien qui dégénère. Je ne dis pas qu'il perd son salut, mais en tout cas, il dégénère. De sorte que si un chrétien s'aperçoit qu'il ment, il doit s'en juger. Ne tolérez pas le mensonge. Vous en avez fini avec le mensonge. Ah, le mensonge se présente. On s'arrangerait bien les choses. Je mens. Vous n'avez plus le droit. C'est humiliant, mais c'est comme ça. Le Saint-Esprit ne tolère pas le mensonge. Alors avouez la chose. Ça va vous coûter. Voulez-vous la victoire? Bien, voilà ce qu'il faut. Évidemment, c'est pas très facile. Mais qu'est-ce que ça vous donne, le mensonge? Tôt ou tard, ce sera révélé. Alors, dépouillez-vous du mensonge. Le vieil homme et ses œuvres. Le vieil homme, il a été crucifié, il est enseveli, nous l'avons témoigné dans le baptême. Et maintenant, qu'est-ce qui nous conduit? C'est la parole. Nous avons revêtu le nouvel homme. Nous avons une nouvelle manière de vivre. Parce que nous avons une nouvelle nature. Comprenez-vous? C'est pourquoi je dis qu'une réunion d'évangélisation